Chapitre 166. Un front orageux en provenance de l'Oregon était descendu le long de la côte pacifique pendant la nuit, porteur de nuages marins qui ne demandaient qu'à déverser leur contenu sur les tours qui pointaient fièrement dans le ciel de San Francisco. Seul le temps déciderait si la cité était une nouvelle Atlantide épargnée par les eaux, ou bien une Babylone érigée sur du vent. La veille, les employés de Far Horizons étaient arrivés en deux vagues. La première à 8 heures, la seconde à 9. Elle calcula son trajet de façon à pénétrer dans le parking à 9h10 lorsque le coup de feu était passé. Elle s'arrêta devant la barrière, celle-ci se souleva et elle choisit le premier des trois sous-sols. L'emplacement 23 était vide et elle s'y gara. En descendant de la berline, elle remarqua deux autres personnes seulement et les vit se diriger vers l'ascenseur sans lui accorder la moindre attention. Jane repéra très rapidement entre deux places de parking le placard dont Wilson Faucher lui avait indiqué l'existence. La serrure céda facilement sous les assauts de son pistolet crocheteur, et elle découvrit un espace profond de 2 mètres et large d'1,50 m. Elle alluma la lumière et referma la porte derrière elle. De part et d'autre du local de rangement s'étageaient des rayonnages sur lesquels étaient posés des produits d'entretien, tandis qu'au mur du fond étaient accrochés 2 balais et 1/2 douzaine d'autres accessoires de nettoyage. Curieusement, ces derniers étaient neufs et les flacons de produits n'avaient jamais servi. L'ensemble ressemblait moins à un local technique qu'à une vitrine de droguiste, ou bien à une couverture destinée à tromper un observateur peu exercé. Jane débarrassa le mur du fond des balais et des accessoires afin d'étudier la cloison. Elle constata que si les crochets étaient tous fichés dans le béton, 2 d'entre eux pivotaient. Elle les tourna l'un après l'autre à 360 degrés. Un moteur se mit à ronronner, le pan de mur s'écarta et une lumière s'alluma automatiquement de l'autre côté de la paroi où l'attendaient les premières marches d'un escalier droit. Elle referma le pan de mur à l'aide du levier prévu à cet effet et s'assura qu'elle n'aurait aucun mal à repartir en le faisant à nouveau pivoter. Le béton de l'escalier était couvert d'un revêtement gris qui étouffait le bruit de ses pas. Les cloisons en plaques de plâtre étaient peintes en blanc et des spots encastrés éclairaient l'ensemble. Nulle part, elle n'aperçut de caméra de surveillance. Wilson Faucher avait vu juste. Un pistolet muni de son silencieux en avant, elle entama l'ascension des marches, le dos collé au mur afin d'éviter les mauvaises surprises. Un épais silence régnait dans la cage d'escalier, signe que sa présence n'avait pas été détectée. Elle ne s'en trouvait pas moins dans le ventre du monstre, et le minotaure moderne qui l'attendait au 7e étage était avide de chair humaine. 2 volets de marche et un palier intermédiaire séparaient les étages. Elle constata, à mesure de sa progression, qu'aucune issue ne permettait d'accéder au rez-de-chaussée, au premier ou au deuxième. De toute évidence, il s'agissait du passage secret conçu pour permettre à DJ Michael de s'échapper en cas de besoin. Jane poursuivit son ascension, palier après palier, jusqu'au 7e étage, où elle découvrit pour la première fois une porte. Si Randall Larkin ne lui avait pas menti, celle-ci ne serait pas verrouillée. Quiconque en franchissait le seuil le faisait à ses risques et périls. Elle grimpa un étage de plus et constata que la porte du 8e était aussi impressionnante qu'on le lui avait annoncé. Une masse blindée comparable à une porte de coffre-fort, encastrée dans un épais chambranle métallique. Le mur qui l'entourait, une masse de béton armé de 50 cm d'épaisseur, était conçu pour résister à une charge de plastique. Le degré de protection dont s'entourait DJ Michael était à la mesure de sa paranoïa de sociopathe, affamé de pouvoir. Mais était-ce vraiment de la paranoïa, sachant qu'elle avait elle-même décidé sa perte? Ne s'agissait-il pas de prudence? Quiconque comme lui s'avisait de modifier le cours de l'humanité, devait s'attendre à un minimum de résistance, même si l'histoire nous enseigne que les opposants au totalitarisme triomphent le plus souvent bien tardivement et généralement par hasard. Jane ne prit pas la peine de monter jusqu'au 9e, certaine d'y trouver la même porte que 2 étages plus bas, et redescendit au 7e. Elle s'adossa au mur quelques instants, convaincue qu'un enfer peuplé de démons l'attendait de l'autre côté. L'ennemi se présenterait dans un premier temps sous la forme de Ray Chose, ces esclaves que Berthold Schenck, l'inventeur des mécanismes de contrôle, avait baptisés en hommage à Raymond Chaud, le héros du roman Un crime dans la tête. Elle avait eu l'occasion de se battre contre plusieurs d'entre eux dans le ranch de Schenck, le jour où le chercheur et le monstre qui lui servait d'épouse avaient trouvé la mort qu'il méritait. Les Reichos, à l'image des filles d'Aspasie, étaient privés de mémoire et de personnalité jusqu'à se trouver réduits au rang de simples machines humaines. Et si les filles d'Aspasie étaient programmées pour donner un plaisir sexuel sans limite en toute soumission, les Reichos étaient des machines à tuer totalement imperméables à la peur et au danger. D'après Randall Larkin, et après examen des plans de l'immeuble, le septième étage était composé de deux petits appartements et d'un immense plateau de 750 mètres carrés. Le premier logement accueillait à demeure quatre Reichos qui passaient leur journée à se muscler et à jouer aux cartes. Jane rengaina son arme et décrocha d'un anneau velcro de sa ceinture une grenade incapacitante achetée à Reseda. De la main gauche, elle actionna le levier de la porte d'accès et se donna du courage en pensant à son fils obligé de se cacher, à son mari disparu. Le battant s'écarta et une lumière jaillit. Elle lança la grenade et battit en retraite en se protégeant derrière la porte. Un éclair se découpa tout autour du chambranle et nul doute que DJ entendit la déflagration à l'étage du dessus. Jane poussa la porte, l'arme au poing, et ressentit les dernières vibrations provoquées par l'explosion. Elle se rua sur le plateau plié en deux et découvrit trois des quatre Reichos. Alertée par son irruption soudaine au moment où elle avait lancé la grenade, ils avaient ressenti les effets de celle-ci de plein fouet. Le premier était couché sur le flanc, son arme un peu plus loin, le deuxième était à genoux mais tenait toujours son pistolet, et le troisième avançait en titubant dans sa direction. Derrière eux, la ville dressait sa silhouette élancée au milieu des nuées orageuses, de l'autre côté des immenses baies vitrées donnant sur les balcons. En levant les yeux, elle découvrit au plafond un entrelacs géométrique de barres d'acier de différentes longueurs. Elle savait déjà que le véritable danger viendrait de là.